présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Leurs déchets tombent sur les habitations. De protéger les avions et de lancer des chimères hommes-avions, oiseaux, qui surveilleront les avions et empêcheront les pirates d'attaquer, de mettre des bombes. j'essaye de les protéger des avions en plein, en plein vol. Pour que chimères oiseaux puissent éteindre les incendies. Dans les trains, on mettra des passagers robots camouflés en hommes. Et ils surveilleront les passagers. Si vous voyez terroristes, ils agiront. Ils les détruiront. Pour les avions aussi, il y aura des passagers robots. Les gares, les aéroports, la surveillance est renforcée. Mais Tremblant a décidé, c'est de laisser un peu de laisse aux terroristes. Parce que ça l'arrange tous ces attentats. Ça fait de la population en moins et des commandes du travail en plus. Parce qu'il faut reconstruire les choses qui ont été détruites. Ça fait des commandes supplémentaires, surtout pour les avions et les trains. Les commandes avaient bien baissé. Parce qu'on était arrivé à saturation. On ne créait plus de nouvelles lignes, mais on remplaçait tout simplement les appareils et les machines. Donc, tout ça donne du travail supplémentaire aux entreprises Tremblant. Pour tous ces attentats, voir l'élu, surtout pour les chimères et les robots, où on s'explique vraiment comment ils font le travail pour aider la police et empêcher les attentats. Mais on surveille tout de même que toutes ces choses-là n'aillent pas trop loin. Et puis ces attentats terroristes permettent au gouvernement de faire accepter la guerre en Afrique. Marc Girardon, président de la République, se dit dans son bureau « Ah, si nous avions un 11 septembre, ça réveillerait l'esprit nationaliste et les jeunes s'enrôleraient plus facilement. Ce serait bien. Oui, ce serait très bien. » Les édifices sont aussi attaqués. Églises, musées, ministères. Le plan visite pirate est doublé. On a doublé aussi la police, les hommes en noir. Les robots. On surveille les suspects. On surveille pour que ça n'aille pas trop loin. Il y a des espions sur tout le territoire. Les plombs explosent. On fait sortir les gens des immeubles lorsque l'on croit qu'il y a une bombe.
Les gens ont peur et sortent en courant. Ne plus aller dans les lieux publics, les cafés, les restaurants. Ceci n'empêche pas les émeutes et les tueries des hommes en noir. Paris et les villes de France sont des vrais champs de bataille. En plus des attentats, les émeutes, les bagarres continuent dans les villes de France. Le siège Franc-Blanc est très surveillé. Il y a des hommes en noir, l'armée, dans tous les coins, à tous les étages, et même sur l'esplanade. Sur la terrasse du haut, il y a des radars. Des appareils qui lancent des signaux pour faire dévier un avion qui viendrait prendre la direction du siège. Il est vrai que c'est le siège et l'immeuble le plus grand, le plus haut du monde. Et que c'est le plus fragile. Qui s'est attaqué avec des avions. Et si un avion s'écrase dans l'immeuble, ce serait terrible. Il y aurait des milliers de morts, la destruction de millions d'informations. Et puis, symboliquement, ce serait terrible aussi, car il représente le monde occidental. La destruction de l'immeuble Franc-Blanc, c'est la fin de tout. Oui, la fin de tout. Parce que c'est là que toutes les décisions se prennent. C'est là que toutes les directions la direction du monde se fait. Tout ce qui concerne les gens vient de là. Tout ce qui est utile pour la vie vient de là. La santé, l'alimentation, l'eau, les vêtements, l'immobilier, les livres, la télévision, la radiodiffusion, les films, les vacances, les loisirs, l'éducation, les transports, la recherche scientifique, ça, c'est Franc-Blanc et beaucoup d'autres choses, dont l'informatique. Sans Franc-Blanc, Je monte, saute. Il n'y a plus rien. Terme décide, c'est de partir pour Lyon. Oui, décide de partir pour Lyon, pour exciter les Lyonnais. Et prendre le commandement. Parce qu'il faut encore plus détruire. Faut créer la panique, la terreur et la peur. Il va à Lyon en train, habillé en prêtre, mais toujours aussi sale dans un wagon de deuxième classe. Oui, toujours aussi sale dans un wagon de deuxième classe. Il y a déjà, dans le compartiment, à côté de lui, en face de lui, une personne que vous connaissez tous, c'est Pierre-Max Roussillon. Et Pierre-Max Roussillon regarde bien Terme. Il lui dit, bonjour, je m'appelle Pierre-Max. Je fais une émission à Radio C. Elle s'appelle À l'écoute du monde. Je chante aussi des héros spirituels. Vous êtes prêtre ? Terme lui dit.
Oui.
Terme lui dit. Moi, je veux être diacre. Je vais tous les samedis à l'église pour être diacre. Parce que c'est bien. Et puis on est vu. Vous, vous êtes de quelle église ?
C'est pas, j'en ai pas pour le moment.
Pierre-Max lui dit. Vous êtes peut-être traditionnaliste, c'est pour ça que vous avez une soutane. Moi, je devais jouer un rôle de prêtre dans un film. Mais sans soutane. Là, je suis contre. Et vous ?
Pierre-Max lui dit. Oui, 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 oui.
Pierre-Max lui dit. Je chante, c'est religieux. Il commence à chanter.
Oh, 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 oh.
Terme lui dit, agacé,
taisez-vous.
Pierre-Max lui demande, oh, pourquoi? Vous aimez mieux les chants latins?
Oui, c'est ça.
Moi, je connais Monseigneur Yoga. Et Pierre-Max le saoule de sa voix jusqu'à Lyon. Puis, après 3 heures, il a fallu déjeuner. Il a été accompagné par Pierre-Max. Il était obligé de lui payer son repas parce que Pierre-Max avait oublié sa carte. Enfin, après un long trajet, ils arrivent à la gare de la part de Perrache. Il y a du monde dans la gare. Train se dirige vers la sortie de la gare.
Restauration Gris Express est assuré dans ce train jusqu'à Bruxelles.
une fois sorti, il va prendre un taxi pour aller sur les pentes de la Croix-Rousse. Il y a des rues lugubres. Il se fait mener place des Capucins. Là, il y a un immeuble où se trouve un porte-porte où c'est marqué dessus Scientologie. Et à côté de cet immeuble, un autre immeuble qui traboule. Terme va vers celui qui traboule. La traboule mène en descendant les escaliers de l'immeuble. Qui va en bas, qui va en bas dans une cour sans pleine de détritus. Le sol est défoncé. Mais Kern, lui, il va dans les caves de l'immeuble. Comme de l'immeuble se trouve, pour y aller, il faut aller derrière les escaliers, en bas des escaliers de l'immeuble. Il y a une porte avec des barreaux qui sont sales avec de la merde de chien dessus. Stern va ouvrir la porte. Éclair et descend. Il descend des escaliers où il y a de la terre dessus. Les escaliers sont larges. En bas se trouve un long couloir avec des câbles. Le long couloir est en terre. À gauche des escaliers, en bas, il y a un renforcement. Où les putes viennent avec leurs clients. Elles connaissent bien la corde du 2 rue Sainte-Marie des Terreaux. Dans le renforcement, caché par l'ombre, se trouve le cadavre d'une vieille femme. La robe relevée, le ventre ouvert. C'est la mère de François. Voix merveilleux. Monsieur Bébé. Là, le terne ne la voit pas. Il ne l'a pas vue en passant. Ça sent mauvais à cause des rats, des gens qui font leurs besoins et du cadavre de plusieurs jours. Le couloir est plein d'immondices, de télévisions, matelas, canapés. Les portes sont ouvertes et débordent. Des corps débordent de choses. Terme ne fait pas attention à tout ça. Il suit le couloir qui tourne. Et au fond du couloir, il y a dans le mur une ouverture, disons un trou béant, assez important. Il entre dans le trou et se trouve dans un grand renfoncement sombre. Une bougie sur une caisse en bois éclaire un peu. Il y a dans la pièce un jeune homme, grand, maigre, les cheveux et la barbe noirs et ébouriffés. Il est habillé de noir sale, son visage est laid. Il demande à Terne. « T'as fait bon voyage ?» Terne lui dit. « Catastrophique ! J'avais un fou comme compagnon. On aurait dû c'est l'éjecter du train. » Et dit, « Bon, parlons de choses sérieuses. Je suis venu, c'est pour réveiller les troupes. Il faut faire des dégâts et beaucoup de dégâts. J'ai besoin de vous. » Le jeune vieux, parce qu'il a tout de même 30 ans, mais jeune pour les jeunes, lui dit, je suis à ton service. J'attends ce que tu me dis. Il faut surtout parler. Bien alors, je peux compter sur tes troupes. Oui, ils sont à chaud. On mène beaucoup. Tu penses le fils du maire qui est à Nard. Je lui dis, bien, et la radio? Ça va. Il y a toujours le vieux fou qui ameute les gens. Tu sais, le Robert. Bien, bien, bien. Je vais me reposer un peu. Après, nous verrons plus tard. Oui.
Une fois dehors, le Terne, à la place des terreaux, se dirige vers les quais de Saône pour aller à Fourvière. Là, Fourvière connaît une pension. C'est un vieux couvent, un ancien couvent où les religieuses louent des chambres pour se faire un peu d'argent. Elles le prennent pour un prêtre. Le soir, dans les sous-sols de Lyon, fait une messe noire avec sacrifice d'une femme. Une femme qui traînait dans les rues. On l'a droguée et mise sur un autel. Son corps. et le découper pour la communion. La femme droguée, à fond, à l'opium, n'a pas réagi, mais a tout de même poussé des cris de douleur. Elle est morte rapidement. Le lendemain, après-midi, Trent convoque dans une chapelle désinfectée. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Guerre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.